peut-être les plus importantes, mais chacune des trois dans cette trilogie est complémentaire. On a bien vu les correspondances entre la table ronde 1, effectivement 2 et 3. Son intitulé est effectivement très ambitieux. Technophilie versus technocritique, puisque c'est une de nos approches centrées sur l'histoire de l'innovation. Quelle est sa réception, appropriation, controverse? Quel avenir pour l'innovation, sociologie de l'innovation, sociologie des comportements, à partir des études de terrain qui ont des méthodologies radicalement différentes, pas uniquement d'après la discipline, mais d'après soit l'approche enquête, l'approche littérature, l'approche croisement des données, l'approche littérature internationale, sur la réception des célèbres compteurs communicants qui ne se limitent pas à l'électricité, ici Linky, nous connaissons aussi le cas compteur Gaspard par exemple. On a déjà une trajectoire historique importante puisque les premiers projets remonte à 2005, le déploiement réel à 2015, et on a déjà, en tant qu'historien du contemporain, historien du temps présent, on a déjà au minimum 4 à 5 ans de recul. C'est déjà une épaisseur historique, une histoire du temps présent. Le temps que le miracle se prépare, je présente au fond rapidement les 4 intervenants avant de donner la dynamique de la réunion. Donc, je suis ravi de voir une parité, la seule conférence paritaire, pour faire plaisir. Donc au moins qui contribue à la mixité globale, puisque la parité est réellement très très difficile. Alors je pense qu'il y a peut-être quelquefois des questions de gender selon les disciplines. Et je souligne ici de toute façon que cette table ronde est en parfaite complémentarité avec la seconde conférence, la seconde keynote speaker, après notre co-coordinateur Cyril Amonel. Elle aurait pu faire les deux, elle aurait pu participer effectivement à tout. Nous avons le plaisir d'avoir aussi Christelle Assegon, sociologue, qui nous vient de Tours, d'un centre d'expertise, de transfert, qui travaille avec Jean-Philippe Fouquet, qui a accueilli donc un grand colloque international des chercheurs et des jeunes chercheurs de sociologie de l'énergie à Tours il y a quelques années, qui nous fera donc une conférence complémentaire. Elle aurait bien entendu toute la place dans ce quatuor. Donc, un quatuor tout à fait complémentaire. Alors, complémentaire, mais trois sociologues quand même. Trois sociologues et un représentant patenté d'Enedis qui est heureusement aussi historien. Historien de l'environnement, de l'innovation, du système énergétique. Mais commençons par les dames, bien entendu. Notre chercheuse recette, notre chercheuse historique Marion Andreau, sociologue patentée qui est titulaire d'un Master 2, qui travaille depuis 3 ans dans notre chaire. Elle pourra revenir sur son parcours parce qu'au fond, c'est elle qui a encadré les chercheurs sur l'étude que l'on a appelée l'étude, donc je vois qu'aucun miracle technologique ne se produit, donc l'étude 247, donc 247, 24 plus 47, ou plutôt 47 d'abord Lot-et-Garonne, plus 24 la Dordogne. Donc elle a contribué à faire un rapport au bout de 2 ans effectivement de travaux sur cette réception, sur les différentes parties prenantes, sur ces deux départements. Nous avons la joie d'accueillir Aude Danieli. Aude Danieli qui est docteur en sociologie, qui a fait donc une thèse qui fait véritablement office de référence depuis maintenant donc l'année dernière, donc dont le titre est justement la mise en société du compteur communicant, innovation, usage et controverse dans les mondes sociaux du compteur d'électricité Linky en France. Aude Danieli, donc Marion Hérode, qui appartient au laboratoire LATS, le laboratoire technologie, territoire et société, qui est en liaison avec l'École des Ponts, avec le CNRS, en même temps avec l'Université Paris-Est. Et donc, elle a réalisé donc beaucoup d'articles, beaucoup de rapports sur la sociologie, justement, de la controverse. Et je lis juste une phrase de présentation. Son enquête sur les controverses sociales autour de ces technologies numériques permet l'analyse des processus d'innovation relatifs à ces compteurs communicants et des conflits qu'ils peuvent susciter dans la société française. Vous avez carte blanche pour opérer, pour que, éventuellement, nous ayons des slides, nous ayons des représentations de schémas, etc. Je continue pour rompre un petit peu dans cette trilogie sociologique. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Christopher Fabre, un autre Christophe, Christopher, et il y aura un Christophe Bonnery également à la fin, qui a plusieurs cartes, qui est officiellement chargé de mission affaires publiques au siège d'Enedis, qui est attaché auprès du secrétaire général d'Enedis, qui n'est autre que Michel Verdevé, dont les publications sont intergalactiquement connues et dont les rapports sur les travaux sur, on parle récemment dans la table ronde précédente de l'autoconsommation, on connaît ses travaux. Christopher a déjà une longue carrière dans Enedis et surtout, il a soutenu, je retrouve effectivement précisément les références, il a soutenu en 2017 une thèse sur la dimension environnementale des politiques énergétiques françaises et allemandes de 1973 aux années 2000, de l'antagonisme à la convergence des modèles, une thèse qui avait entre autres, soutenue par l'ADEME, une thèse sous la direction de mes amis Alain Beltran et Éric Bussière et l'œuvre. Donc depuis quelques années auprès donc, de la tête d'Enedis, il vous fera part de ces différents points de vue. Donc c'est bien, ça progresse. Donc le temps que je présente Bastien Tavler, qui est également postdoc, donc qui est docteur, donc également ayant docteur comme ses deux voisins, qui est sociologue, s'affiche sociologue de l'innovation, sociologue des usages. Il est au laboratoire I3SES Télécom Paris Tech, Université Paris-Saclay. Il a beaucoup travaillé depuis plusieurs années avec Laura Draeta. Il n'est pas, à l'origine, il ne travaillait pas exclusivement, loin de là, sur la sociologie des usages de l'électricité, de la distribution et de la consommation, mais sur la sociologie des usages en général, sur la sociologie donc de l'innovation, mais il vient de publier, et il va publier, donc depuis 2 ou 3 ans, soit seul, soit avec Laura Draeta, ou avec d'autres, des articles justement sur cette sociologie de l'innovation et des usages. C'est très bien, je suis désormais trop long, puisque tout est arrivé, je m'assois. On va arriver à Marion Bron, c'est très bien. Donc, la dynamique, dans le fond, donc j'ai pas besoin de ce que le micro, si j'ai pas celui-là, ça va être là, ce qui fonctionne souvent, si je parle dans le cas. Donc, on a prévu un passage en 3 temps interactif, donc une démarche d'historien classique par rapport au déploiement du compteur Linky. Un premier passage sur la trajectoire globale, donc la genèse, le cadre, le déploiement, de façon assez synthétique. Un second temps, aujourd'hui, quels sont les enjeux croisés, quels sont les enjeux critiques, quels sont les enjeux critiques sur cette mise en débat. Et puis un troisième temps, avant, pendant, après, qui est sur la prospective, qui est sur l'agenda, qu'est-ce qui est à l'agenda, quels sont les défis, les bifurcations possibles, et pour certains d'entre vous, des comparaisons interrégionales ou des comparaisons même internationales. Je pense à plusieurs éléments. Il est temps que je me taise. La parole est à Marion. Normalement, on suivra, ça permettra de ne pas perdre de temps dans le passage de parole. On suivra normalement l'ordre suivant. Marion Andron, Christopher Fabre, Aude Bandelli, Bastien Tavler, donc de gauche à droite. Je me tais. Comme vous voulez. On va vous faire passer. Donc,
bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon. Donc dans une première partie, comme disait Christophe, moi je vais revenir sur mon implication dans la chaire, donc du coup depuis 2017, ma vision de la chaire et mon implication dans cet espace. Donc, création en avril 2017 de cet espace de réflexion. À ce moment-là, il y avait un enjeu d'identité qui était très fort. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on définisse finalement les axes, les orientations théoriques de la chaire. On ne savait pas encore quelles étaient vraiment les orientations et les identités de cet espace-là. Donc le gros enjeu pour nous, c'était cet enjeu d'identité, pardon. Et cet enjeu aussi pour moi, finalement, en tant que sociologue, qui appliquait une sociologie très académique, puisque j'étais encore étudiante en master 1 de sociologie, donc passer de l'académique à une sociologie beaucoup plus pratique. Je reviendrai sur cet élément plutôt dans un deuxième temps. On va rester sur cette slide quelques minutes. En fait, pour moi, si je devais définir la chaire, je vois la chaire un petit peu comme une grosse machine. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait ces enjeux de définition, ces enjeux d'identité. Et puis petit à petit, la chaire a su se diversifier, aller sur divers sujets. J'envisage ça, je parle d'une dynamique de recherche, je parle d'interdépendance des sujets, dans le sens où il y a une imbrication des sujets en travaillant sur le rapport des ménages à la consommation énergétique. Ça nous a, en fait, on a peu à peu tiré sur une ficelle qui s'avérait être de plus en plus grande et nous mettre en avant d'autres ficelles. Donc, par exemple, en travaillant sur le rapport des ménages, on a travaillé sur les questions liées à la précarité énergétique, à l'autoconsommation, la technocritique aussi, évidemment. Donc voilà, pour moi, si on devait définir la chaire, c'est cette espèce de dynamique de recherche en fuite en avant, cette interdépendance entre les sujets que je trouvais très intéressante pour des étudiants qui appliquent encore leur savoir très académique, et ça manque de justement ce côté très pratique et très professionnel, et notamment en sociologie. Sociologie, et notamment à la fac de Bordeaux 2, qui est une fac très qualifiée.
Anciennement
Bordeaux 2, exactement, l'université de Bordeaux. Donc du coup, comme je vous disais, pour moi, l'enjeu en tant que jeune étudiante en sociologie, c'était de trouver non pas ma légitimité à moi, mais plutôt de légitimer le regard sociologique sur un champ encore très technique, qui est le champ de l'énergie. Du coup, j'ai décidé finalement de parler de Bernal et de Bertrand. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces deux sociologues questionnent la pratique de la sociologie. Et notamment, pour eux, il y a un tournant dans les années 80, parce que la sociologie, effectivement, n'a pas le monopole de l'interprétation des faits sociaux. C'est ce qu'on peut reprocher. On reproche surtout aux sociologues à cette période-là de ne pas être capables, finalement, de répondre pleinement aux attentes de la société. Donc, tout l'enjeu de la sociologie dans le temps, finalement, c'est d'être capable de répondre aux attentes de la société. Donc pour Bernard et Bertrand, l'avenir de la discipline, ce qui sera la discipline, c'est l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Donc même si c'est un positionnement relativement radical parce qu'ils réduisent l'exercice de la sociologie à la transdisciplinarité, je pense malgré tout que c'est intéressant parce que c'est le propre de la chaire, la transdisciplinarité, voilà, sociologie, histoire et médiation des sciences. Donc finalement, toutes ces disciplines, en interagissant les unes avec les autres, s'enrichissent aussi mutuellement, et c'est dans ce sens que l'interdisciplinarité est une richesse pour chacune des disciplines, et je pense que si on devait définir la chaire, la notion d'interdisciplinarité serait au centre. Ensuite, la sociologie au défi des attentes de la société, c'est tout ce que je vous disais, c'était ce que soulignaient Bernard et Bertrand. Voilà. Donc ils questionnent la pratique de la sociologie, et alors cette fois j'ai cité Gilles Héréros, parce que justement, il parle de cette difficulté de passer d'une sociologie académique à une sociologie beaucoup plus pratique, notamment pour la mise en place de la recherche-action, qui est le propre de la chaire Risette. Donc, je trouve que c'est assez pertinent, parce que c'est le cas, et ça fait partie, en fait, des grosses difficultés, quand on est une jeune étudiante en sociologie, en histoire, en médiation, trouver sa place, réussir à traduire notre savoir académique en quelque chose de plus pratique. Il ne s'agit pas uniquement de produire des connaissances, on est aussi sur quasiment du diagnostic. Donc de la recherche-action, on est dans l'action en même temps qu'on est dans la production de connaissances. En ce sens, c'est un espace de réflexion et aussi un espace d'action. C'est comme ça que je définirais la chaire, en tout cas, de mon point de vue. Et pour finir, je vais essayer d'aller vite, du coup, les sciences humaines comme catalyseur à l'action. Les verbatimes que vous voyez ici, en fait, elles sont issues des tout premiers entretiens menés en 2017, donc au moment où la chaire était vraiment à la recherche de son identité. Donc on a rencontré différents acteurs de l'énergie, notamment Jean-François Ruineau ou Anne Mouner, qui est coordinatrice à l'Unicité. Et à ce moment-là, on a discuté ensemble, on a échangé, parce que, comme vous le savez, le propre de cette chaire, c'est un espace où on réfléchit tous collectivement à des enjeux communs. Et donc, pour Jean-François Ruineau, le vrai enjeu sur le plan des sciences humaines, c'était d'amener les gens à cette responsabilisation. De quelle responsabilisation il parle, finalement, c'est tout ce qu'on disait ce matin, par rapport ces espèces de potentiel d'action en latence, parce que pendant très longtemps, historiquement, vous savez, la société civile, elle a été éloignée finalement du carcan très technique de l'énergie, et qu'aujourd'hui, on a un changement de paradigme, on parle du consommateur, Donc il y a une sorte d'injonction à mieux consommer, à mieux maîtriser sa consommation. Donc on a un potentiel d'action latent, c'est-à-dire on est une immatérialité des réseaux pendant des années. Aujourd'hui, on demande aux gens de prendre conscience des réseaux, de prendre conscience de leur potentialité d'action. On leur demande d'être des consommateurs. Donc c'est cette idée, pour Jean-François Guénaud, donc le propre de la sociologie, c'était aussi d'accompagner cette responsabilisation. Et dans un second temps, un honneur, qui nous dit qu'ils ne se sentent pas tous en capacité, donc il est la société civile, vous et moi, tous en capacité, et là, ce n'est pas un accompagnement technologique dont ils ont besoin, c'est un accompagnement du domaine humain. Donc je pense que ça résume assez bien. Finalement, en ce sens, les sciences humaines, elles ont un rôle de catalyseur de l'action, pousser ces potentiels d'action en latence à se révéler, si je puis dire. Et je vais revenir une dernière fois, du coup, sur Gilles Hérévoz, qui définissait ce que c'était que la sociologie professionnalisée, ce que c'était que la sociologie pratique. Donc pour lui, la sociologie entendue comme pratique conduit le sociologue à s'immerger dans une micro-situation afin de proposer une lecture dont les effets pourraient participer d'une transformation de la dite situation d'intervention. Donc finalement, cette citation est très intéressante parce qu'elle est révélatrice de deux éléments forts. Le sociologue, à la fois, il est un lecteur, mais aussi un acteur du changement. Il doit être capable de l'observer, mais il doit aussi être capable de l'accompagner et de permettre ce changement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
La première, je vous remercie tout à l'heure.
La parole est à Christophe.
Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je suis ravi d'être ici pour ce deuxième anniversaire de la chaire Risset. J'ai le plaisir à suivre les travaux. Ce que je vais aborder, moi, c'est tout d'abord la genèse du compteur Linky et dire pourquoi on a déployé le compteur Linky, pourquoi on a créé le compteur Linky. Je pense que c'est nécessaire de rappeler ça. Tout d'abord, je pense qu'il faut bien dire que le compteur Linky, si on le déploie, c'est parce qu'en fait, il y a un creuset de plusieurs évolutions qui sont à la fois la transition énergétique, la révolution numérique, le phénomène des data et l'évolution des marchés. On change, grosso modo, les compteurs tous les 20-30 ans. Et le compteur Linky, c'est juste une étape nouvelle dans ces changements de compteurs. On a eu les compteurs mécaniques, on a eu les compteurs électromécaniques, le compteur bleu, le compteur électronique. Maintenant, c'est le compteur Linky. Et de façon successive, on incrémente les nouvelles technologies qui apparaissent. Et là, c'est maintenant le compteur Linky qui est la nouvelle génération de compteurs. Donc on s'inscrit bien dans une histoire technologique qui est celle du renouvellement d'un objet qui est commun sur les réseaux. La deuxième raison, c'est l'avènement des nouvelles technologies du numérique, des objets connectés, de ce qu'elles permettent en termes de nouveaux services. C'est le compteur, en fait, a été pensé avant tout pour offrir de nouveaux services aux clients. C'est la possibilité de relever à distance, c'est la possibilité de faire des téléopérations, c'est la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe sur le réseau. Je reviendrai sur tous ces points-là. Mais surtout, il y a quelque chose qui, durant les années 2000, est apparu, c'est la transition énergétique et la mutation de fond du système énergétique qui a impliqué. Sous trois grands points qu'on voit maintenant émerger très clairement, mais qui étaient encore à leur début dans les années 2000, au moment où on a conçu le projet. Premier point, c'est le développement des énergies renouvelables. Avant, on avait un système centralisé autour de grandes unités de production, et avec un système qui faisait descendre l'énergie depuis les grands centres de production jusqu'au consommateur. Avec l'émergence des énergies renouvelables, on est dans un système où on passe à des centaines de milliers de points de production sur l'ensemble du territoire. Et on voit bien en Allemagne, ils en sont à des millions de points. Ça change fondamentalement le mode de fonctionnement du réseau de distribution, et je pense que ça a déjà été abordé très largement ce matin, mais pas d'un réseau de distribution, un réseau de collecte. On ne peut plus rester avec le même outillage qu'on avait jusqu'ici sur le réseau. Il était essentiel de déployer des objets connecté sur le réseau, le compteur communicant lien. Le deuxième aspect, c'est qu'un des enjeux de la transition énergétique, et de développement des énergies renouvelables, c'est l'efficacité énergétique. Certes, il faut augmenter les renouvelables d'un côté, mais de l'autre, il faut pouvoir diminuer les consommations. Pour diminuer les consommations, il est absolument essentiel de savoir combien on consomme. Le compteur Linky n'a pas pour but en soi de réduire les consommations à lui tout seul, mais c'est comme, désolé de la métaphore, mais si vous voulez faire un régime, il faut d'abord avoir un pèse-personne qui permet de faire ça. Et c'est pas le best-person qui va faire le régime, mais au moins il permet de savoir d'où on part et le but à atteindre. Donc c'est l'objet du compteur. Le troisième aspect qui apparaît maintenant et qui accélère, c'est les véhicules électriques. De la même façon, pour pouvoir développer très massivement la mobilité électrique, les compteurs communicants seront essentiels pour piloter les charges. Et surtout, ce qui arrive avec le développement, je reviens sur le cas des ENR, avec le, on avait un système qui, au-delà d'avoir quelques grands points de production, c'était des productions pilotables. Avec les ENR, nous avons des productions qui ne sont plus pilotables, qui sont des productions intermittentes, et donc qui refont le système électrique dans le sens où avant, c'était la production qui s'ajustait à la consommation. Maintenant, c'est quelque chose qui va devenir de moins en moins possible et va être de plus en plus demandé que la consommation s'ajuste à la production. Et pour ça, il va falloir donc demander aux consommateurs d'ajuster leur comportement en fonction des moyens de production qui ne seront plus pilotables, qui dépendront du vent, du soleil. Et ça, le compteur communicant sera essentiel. Encore un aspect, on est dans la révolution des données. Toutes les nouvelles technologies numériques amènent un flot de données immense qui offre, qui permet des services. C'est ce qu'on connaît les GAFA. Mais ça arrive maintenant sur le champ de l'énergie. Et tout un tas d'offres ne seront possibles qu'à travers cette révolution des données. Des données qui sont protégées, on y reviendra après. Mais c'est un sujet essentiel pour assurer la mise en œuvre de la transition énergétique. Il va falloir tirer le meilleur parti d'un flot de données démultiplié, notamment pour les collectivités territoriales qui maintenant sont en première ligne de la mise en place de la transition énergétique, qui doivent déployer des projets territoriaux. On a vu des exemples d'autoconsommation collective, mais il y a aussi tous les projets d'efficacité énergétique. Il faut qu'elles connaissent leur territoire. Pour connaître leur territoire, il leur faut les données à la maille de leur territoire. Et le compteur Linky, à travers la finesse des données qu'il va permettre, va offrir aux collectivités ces données. Donc tout cet ensemble de phénomènes qui sont apparus et qui sont apparus pendant les années 2000, donc on avait peut-être un peu d'intuition, mais qui maintenant se confirme, ont conduit au choix de développer un compteur communicant. Compteur communicant qui a été inscrit comme une obligation au niveau européen, puisqu'en fait les États européens ont l'obligation de déployer 80% de leurs clients de compteurs communicants d'ici 2020. Et la France est bien partie pour être dans le champ. Et c'est au-delà de l'Europe aussi déjà une dynamique mondiale. Parce qu'on s'aperçoit qu'en Chine, par exemple, là où nous on déploie 30 000 compteurs par jour, c'est quand même un rythme conséquent. En Chine, on est sur des rythmes qui sont de 300 000 compteurs par jour. Bon, on voit bien qu'on est dans une dynamique mondiale de révolution du système énergétique. Donc, d'où le lancement au final du programme pour répondre à ces différents enjeux. Programme Linky, donc, qui a démarré en décembre 2015 pour un coût de 5 milliards d'euros. Mais il faut bien voir qu'à la base, on a calculé ce coût total de 5 milliards d'euros. Et le remboursement de ce coût, parce que rien n'est gratuit. Hein. Mais par contre, on a fait en sorte que ce soit neutre pour le client. C'est-à-dire qu'en fait, on équipe les consommateurs du compteur Linky, qui va nous permettre un certain nombre d'économies dans le pilotage du réseau, 2, la relève, et 3, les pertes non techniques qu'il peut y avoir. On fait des économies donc, dans le pilotage du réseau, ce qui nous permet au final de ne pas augmenter les factures et de faire un déploiement neutre. Après tous les avantages qui viennent en matière d'énergie renouvelable, de véhicules électriques, de données d'efficacité énergétique, tout ça est en fait en quelque sorte du bonus par rapport à cette équation et des services en plus aux clients, services qui sont en fait maintenant une meilleure protection des installations, des données à disposition, des opérations à distance, une relève. Et donc tout ce déploiement-là et ces services ont commencé depuis 2015, on en est actuellement au milieu du déploiement qui est dans les temps. On est à 18 millions de compteurs. C'est rare quand même les projets industriels à 5 milliards d'euros qui l'ensemble des Français, 35 millions de consommateurs, on est dans les temps. Donc pour l'instant, c'est plutôt un succès.
Merci beaucoup. La transition est toute trouvée, locale, globale, avec Aude Danelli qui est parti en laboratoire de François-Mathieu Poupeau. Justement, on évoquait ce matin, et qui a envoyé donc un titre effectivement tiré d'un éditorial. Je dis juste le titre, ça permet de lancer la controverse sociologique. Donc, le compteur Linky, 2 points, progrès ou arnaque, point d'interrogation. je vous laisse présenter les argumentaires que vous prenez dans cette sociologie d'une promesse technologique, dans votre sociologie de la controverse.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Oui, effectivement, donc en fait, je viens de finir une thèse en sociologie de l'innovation qui porte spécifiquement sur l'analyse du phénomène Linky. Donc c'est une thèse qui porte sur la conception, sur la réception et sur les dynamiques de controverse qu'ont pu susciter l'installation de ces compteurs Linky dans les espaces privés et les territoires. Donc j'ai mené un grand nombre d'enquêtes qualitatives en partenariat avec EDF R&D. Donc j'ai mené plus de 130 entretiens et observations ethnographiques dans 4 territoires différents. Donc j'ai ainsi interrogé une foultitude d'acteurs sur la chaîne d'acteurs, donc des concepteurs, des data scientists, des professionnels d'interface, des releveurs de compteurs, des ménages en souffrance, des personnes électro-hypersensibles. Je suis allée voir aussi du côté des administrations centrales et des pouvoirs publics. Je suis allée voir les associations de consommateurs. Voilà, donc en fait, chacun de ces acteurs sont porteurs finalement de conceptions très différentes de la consommation d'énergie, de conceptions rivales de ce qu'est la consommation d'énergie, de ce que doit être donc, la consommation d'énergie, de sa reconfiguration et de son inscription dans des projets de société, qu'ils soient numériques ou pas. Et donc, j'ajoute aussi que mon enquête s'appuie donc sur une immersion au sein du groupe EDF pendant 4 ans, ainsi que des analyses de coupures de presse et d'archives historiques sur le comptage électrique. En fait, ce que je propose ici, c'est un point de vue sociologique pour comprendre les appropriations concrètes dans les espaces privés et professionnels, ainsi que la structuration des débats publics dans les territoires. Alors déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que ce compteur Linky, donc, il a été doté d'un certain nombre de fonctions numériques, comme la téléintervention, qui sont donc supervisées à distance du foyer. Et ce compteur a été aussi paré donc, de nombreuses promesses industrielles et écologiques, telles que l'optimisation des consommations énergétiques des ménages, que ce soit en période de pointe, ou encore la facturation sur consommation réelle. Et pourtant, avec un objet aussi prometteur, le déploiement de ces appareils n'a pas été et ne l'est pas encore un long fleuve tranquille. Il a donc suscité un certain nombre de litiges avec les consommateurs, des tensions entre les promoteurs du projet, les mouvements associatifs et les élus. Et certains territoires ont été plus que d'autres marqués par des controverses, voire des conflits. Par ailleurs, il faut rappeler, et vous savez tous en lisant la presse régulièrement, que ce sujet Linky a fait l'objet d'un écho important dans les médias, dans les grands médias, étant toujours et régulièrement mis à la une de la presse locale. Et j'en viens donc à une question, donc finalement, de demander comment un équipement à la fois aussi prometteur mais aussi anodin que le compteur d'électricité, qui avait quand même vocation à rester dissimulé derrière une armoire, ou être installé sur un poteau électrique, a suscité et suscite encore autant de passion. Donc répondre à cette question est l'objet de mes recherches. Donc ici, je n'aurai pas le temps de revenir sur l'ensemble des résultats de ma thèse, mais le premier ensemble de résultats sur lequel je voulais m'appuyer maintenant, c'est que, et je viendrai tout à l'heure sur l'analyse des débats, la structuration des débats, lors du deuxième point qu'évoquera Christophe Bonneau, c'est qu'un de mes résultats dans mon travail de recherche porte vraiment sur le poids des régulations de proximité dans les territoires qui sont replacées dans le champ de la relation de service et de tarification. Donc finalement, en fait, je me suis attachée à comprendre le sens que les différentes parties prenantes accordent aux compteurs Linky dans les espaces professionnels et domestiques. Cette fois en quittant les scènes publiques, les scènes médiatiques, et en allant vraiment sur le terrain des directions opérationnelles et des foyers. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que, en fait, dès 2004, le compteur communicant est d'abord qualifié comme un outil très économique au sein d'EDF-GDF. Donc à l'époque où EDF était encore EDF, c'est-à-dire une seule entreprise dans un contexte de monopole sur les marchés de l'électricité des particuliers. Et ce compteur qui a vraiment été pensé dans une fonction très économique initialement, était pensé comme un outil de métrologie et de tarification fiable et facilement accessible et contrôlable par les directions opérationnelles. Et en même temps, alors que s'ouvraient progressivement les marchés de l'électricité entre 2005 et 2010, cet outil d'entreprise a été peu à peu requalifié. Et il a été requalifié en particulier sous l'égide des pouvoirs publics, alors notamment l'ADEME et les associations de consommateurs comme UFC Que Choisir, mais aussi dans le cadre de réglementations européennes. Et il a été transformé en un outil numérique, cette fois au service de la transition énergétique, avec un module pour l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'il s'agissait plus seulement d'en faire un outil métrologique à destination des professionnels, mais vraiment une interface d'optimisation des consommations énergétiques, notamment aux heures de pointe. Mais l'étude du processus d'innovation ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que le processus de requalification technologique ne s'arrête pas là. La phase des premiers déploiements a introduit une nouvelle évolution du compteur qui était liée en fait à des éléments imprévus dans la relation de service. En fait, il y a des antériorités, des micro-conflits latents à la relation de service et au champ de la tarification. C'est-à-dire qu'en fait, ces compteurs Linky, ils viennent réactiver une conflictualité qui est vraiment inhérente à la relation de service dans le secteur de l'énergie. Donc il peut arriver par exemple que la relève soit ancienne et que cela suscite des régularisations de factures basées sur des consommations réelles qui vont venir entraîner des incompréhensions et des réclamations de la part de consommateurs. En même temps, il n'y a pas toujours réactivation de la conflictualité dans la relation de service dans les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, ça se régule différemment selon le parc de compteurs. Donc on a d'un côté les compteurs électromécaniques qui sont parfois anciens, parfois à la métrologie défaillante. Et de l'autre côté, des compteurs déjà électroniques introduits dès les années 90 en France, et qui sont des compteurs plus récents, qui avaient déjà introduit en fait, des interventions numérisées des compteurs, et basées sur des contrats plus récents, hein, avec des données de consommation réelles. Donc ce qu'il faut retenir en fait, à ce stade de mon intervention, c'est que finalement, ces compteurs Linky ne se diffusent pas de la même façon selon les territoires, selon les anciens parcs de compteurs, selon les types d'abonnements des clients. Et ce que j'aimerais ajouter, ce sera mon dernier point, c'est qu'en fait, l'étude de ce phénomène Linky, à travers la relation de service entre les professionnels de terrain, donc ceux qui sont confrontés aux consommateurs, qui déploient, qui justifient, qui sont face au mécontentement de clients parfois, et les clients montrent finalement le poids des régulations de proximité dans l'histoire de ce dispositif technique. C'est-à-dire qu'en fait, après une intense phase de résolution des litiges, les professionnels, alors que ce soit les conseillers clients dans les services d'EDF, dans les services commerciaux, ou encore les techniciens, donc les agents techniques dans les directions opérationnelles à Enedis, en fait, ils vont replacer ce compteur dans le cadre d'une relation pacifiée autour de la figure d'un client honnête qui paie ses factures, qui est solvable. C'est-à-dire que ce compteur Linky est finalement requalifié comme un outil de moralisation des comportements économiques pour venir traiter des conflits de services préexistants. Donc les professionnels, notamment dans les services techniques, vont demander en définitive aux consommateurs d'être moins actifs. Ils vont mettre à distance ces consommateurs plutôt que les inciter à venir manipuler les compteurs. Et c'est de cette façon-là aussi, finalement, en banalisant, en simplifiant l'interface, que ce compteur arrive aussi à être déployé dans les territoires. Donc c'est finalement en ayant réussi à renverser l'innovation sur elle-même que ce déploiement reste aussi assez massif.
Alors, merci beaucoup, justement. La sociologie de l'innovation et les usages, on a vu avec vous qu'il y avait beaucoup plus de parties prenantes que l'on ne pensait et qu'il y avait une diversité des points de vue donc des consommateurs. Donc Bastien Tavener qui s'affiche, donc sociologue de l'innovation et des usages avec une méthodologie différente. En quoi est-ce différent, en quoi est-ce complémentaire?
Oui, donc tout d'abord j'aimerais remercier à mon tour tous les membres de la chaire RECEPT pour cette invitation qui permet vraiment de croiser les regards sur un objet particulièrement riche et complexe qui appelle vraiment à la fois la pluridisciplinarité et la confrontation de différentes méthodes et différentes entrées. Donc pour ma part, comme vous le soulignez, je suis sociologue de l'innovation et des usages à Télécom Paris Tech au sein du département sciences économiques et sociales et basé au sein de l'équipe d'Exis Sofia, donc basée à Sofia Antipolis, la technopole des Alpes-Maritimes. Et au sein de mon laboratoire, donc, les compteurs communicants font l'objet d'études depuis déjà plusieurs années. Laura Breita, qui est sociologue également, maître de conférence à Télécom Paris Tech, a notamment dirigé une étude entre 2011 et 2013 sur l'expérimentation d'usage de compteurs qui ne dépassent pas des compteurs LinkedIn, des compteurs communicants dans les Alpes-Maritimes, en collaboration avec Christian Licop et Alexandre Delanoë, sur une étude qui a été citée ce matin par, par Cyril. Et plus récemment, donc en 2015, dans le cadre du groupe de travail compteurs communicants mis en place par l'ANSES, donc l'agence sanitaire, nous avons été sollicités pour contribuer au rapport d'expertise donc, qui a été publié en 2016, puis révisé et publié à nouveau en, 2017, pour vraiment porter un regard sociologique sur la controverse publique suscitée par le déploiement des compteurs Linky, en l'occurrence. Donc nous y avons consacré une étude exploratoire de la controverse française sur les compteurs communicants à travers son traitement dans la presse locale et nationale encore, spécialisée et généraliste, et papier et en ligne, donc à partir d'un corpus d'articles. Alors là, sans avoir la prétention d'embrasser toute la complexité du dossier à partir de cette première étude exploratoire, l'idée, c'est que ça nous a permis d'obtenir un premier panorama à la fois des acteurs et des registres argumentatifs qui étaient mobilisés et qui étaient à l'œuvre. Et par la suite, donc, dans la continuité de ces travaux qui ont alimenté le rapport de l'ANSES, nous avons été lauréats en 2017 d'un appel à projet de l'ADEME sur les transitions écologiques, économiques et sociales. Donc ce projet d'un peu plus de deux ans, donc 2017-2020, est un projet à la fois international et pluridisciplinaire. Si on peut venir rapidement sur la slide précédente, juste au niveau des partenaires, donc nous on est Télécom Paris Tech, département sciences économiques et sociales. Dans ce projet est aussi associé l'université de Padoue en Italie, et notamment le professeur Federico Neresini, spécialiste des questions liées au ce qu'on appelle les STS, les Science and Technology Studies. Et il y a également une psychologue du CSTB qui contribue à ce projet de recherche. Merci. Donc l'objet d'étude de ce projet, donc, qui s'appelle le projet RESCOMPTE, c'est la réception sociale des compteurs communicants et leur incorporation dans les pratiques énergétiques et environnementales. Donc, ça, c'est l'objet vraiment général. La particularité, donc, c'est cette approche comparative France, Italie et Amérique du Nord. L'idée, c'est d'aborder le cas français dans ses continuités, dans ses ruptures avec les situations préexistantes et les situations des différents pays, caractérisées à la fois par des orientations technologiques, des temporalités de déploiement et des réactions publiques assez diverses. Au niveau des axes de recherche, donc, pour synthétiser, on est sur quatre axes de recherche assez complémentaires. Le premier, c'est l'analyse des débats technoscientifiques, à la fois en France et à l'étranger, notamment via une approche d'analyse quantitative de large corpus de documents. L'analyse des controverses publiques et des arrêts d'opposition, donc là plus sur une approche qualitative. L'analyse de la genèse du programme de déploiement des compteurs communicants, via toute une phase d'analyse documentaire et aussi d'entretien. Et l'analyse des usages des services de maîtrise de la demande énergétique en situation réelle, donc avec les fameux compteurs Linky, et plus seulement en expérimentation, en phase expérimentale. Voilà, pour dire quelques mots de la méthodologie sans approfondir, analyse quantitative corpus, analyse sexuelle qualitative, et aussi donc enquête ethnographique au sein des arrêts d'opposition, avec tout un tas de participation à des réunions publiques, mais aussi d'ethnographie en ligne, de tout ce qui peut se passer au sein notamment des listes de discussion, etc., sur le sujet, des forums, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Après ce premier set, et au milieu, on a vu du déploiement du compteur Linky, il est temps de passer de l'autre côté. C'est un peu le match point de voir si Aval passe de l'autre côté. Donc, en second temps, vous demandant d'être relativement donc, synthétique, d'après vous, quels sont aujourd'hui les enjeux critiques croisés, les enjeux les plus importants, les enjeux stratégiques? On aura un troisième temps plus court, effectivement, sur l'agenda et les comparaisons qui sont déjà annoncées. Donc, Marion, c'est à vous. Vous préférez parler debout?
Donc, que maintenant, je vais revenir sur le projet 247. Donc, d'abord, pourquoi 247 ? C'est le département de la Dordogne 24, le Lot-et-Garonne 47. Donc, voilà, on a trouvé que c'était pertinent et assez punchy. Comme ça, voilà. Donc, le retour sur l'étude 247, la chérie 7 au cœur du déploiement en zone rurale. Donc, en fait, tout l'enjeu de cette étude qui a été menée, donc, je suis arrivée un petit peu en amont, moi, c'est-à-dire que donc, des étudiants ont mené des entretiens auprès des locaux, des maires essentiellement dans Lot-et-Garonne et en Dordogne. Le but, c'était de revenir sur la réception du compteur Linky. Donc, évidemment, ce n'est pas une étude aussi grosse envergure comme la thèse de Danielly, bien évidemment. Elle a plutôt une valeur exploratoire, cette étude, finalement, parce qu'à peu près 14 entretiens ont été menés en Dordogne et 16 dans le Lot-et-Garonne. Donc, finalement, comme je vous dis, cette étude, elle revêt presque un caractère exploratoire dans le sens où. Et même plus qu'un caractère exploratoire, le projet 247, c'est une sorte de diagnostic social et territorial de ces espaces, parce qu'en fait, elle propose ce volet d'études, ce premier volet d'études, propose une photographie des communes à l'instant T, c'est-à-dire qu'en fait, comprendre les contextes territoriaux, c'est central, c'est primordial dans l'analyse d'un fait social, notamment quand ça se joue comme ça dans des espaces un peu clos, comme c'est le cas d'une commune, par exemple. Donc, en fait, finalement, le but du projet 247, c'était de revenir sur la réception du compteur communicant en zone rurale, parce que vous savez que, finalement, dans les zones urbaines, ça se passe relativement mieux. Finalement, les contestations émanent surtout des communes rurales. Pourquoi ça émane de ces zones-là plus que d'autres? Donc, c'est aussi le but de ce projet-là, essayer de comprendre quels sont les mécanismes de construction des représentations, de l'opposition, de tout ça. Donc, l'occasion de revenir, c'est ce que disait Daniel, c'est ce que disaient tous les intervenants ce matin. Effectivement, la controverse Linky, finalement, c'est une controverse multicause et multipartite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de la remise en cause d'un objet technologique, ça va beaucoup plus loin que ça, ça met en exergue, finalement, plusieurs éléments. Les notions de santé publique, c'est ce qu'on disait, ça questionne la notion de service public également, la technocritique, et ça, c'est pas une spécificité nationale, c'est au niveau mondial, on est dans un changement de paradigme. Également la question de la liberté individuelle. Et je rebondirai même là-dessus, finalement, parce qu'on a évidemment travaillé sur les rayonnements et les interventions des anti-Linky sur ces zones-là. Et on a constaté à ce moment-là une évolution, finalement, des inquiétudes avec un changement de paradigme, là encore, avec le recul de l'argument de la santé publique qui s'accompagne par la résurgence de celui de la liberté individuelle. Au moment du traitement de ces données, c'est-à-dire on était fin 2018, on avait noté une forme de recul de l'attention médiatique sur le compteur Linky, qui pouvait s'expliquer par plusieurs éléments, notamment le mouvement des Gilets jaunes qui focalise beaucoup quand même l'attention des médias en ce moment. Cependant, je contrebalancerai un petit peu ces propos, parce qu'on pourrait noter une sorte de résurgence de l'intérêt médiatique finalement avec ces questions-là, puisque à titre d'exemple, on dit ce matin, titré le 8 avril dernier, peut-être le problème futur sanitaire, ou encore France.info qui est publié vendredi dernier, un article relatif à un arrêté voté dans le Tarn pour réglementer la pause, ou encore Capital qui questionne le client qui en procréait un que justement il y a encore quelques semaines. Donc tout ça, c'était des choses qu'on a abordées sur le projet 247, le rayonnement, les interventions des Linky, l'évolution de la contestation, de la construction de ces représentations. On a également travaillé, alors je vous ai, la notion de test, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti finalement dans les résultats. La notion de test, c'est-à-dire que le compteur doit faire ses preuves, en fait. On estime, en tout cas, dans les acteurs qu'on a rencontrés, estiment qu'aujourd'hui, le compteur doit faire ses preuves. Donc, c'est ce qui va justifier, je reviendrai après, le prolongement de cette étude, finalement, sur une étude presque d'impact, l'impact du compteur communicant, du coup, sur ces zones. Donc, la notion de test, elle est centrale. Évidemment, on a un petit peu de temps par le temps, mais un rapport a été fait, le rapport de santé en tête, il est disponible en ligne pour toutes les personnes intéressées. Par les résultats de cette enquête, évidemment, je pourrais vous faire parvenir le rapport qui est beaucoup plus précis. Évidemment, là, on est contraint par le temps, donc je ne vais pas pouvoir trop m'étaler là-dessus. Et puis, évidemment, aussi, c'était une étude exploratoire, on a aussi permis une prise de contact avec les acteurs locaux, une prise de contact qui sera ensuite pérennisée dans le prolongement de cette étude. Pour continuer très rapidement sur le résultat du projet 247, l'une des grosses phases, aussi, un des grands éléments de ce rapport, c'était questionner les conditions de logement de ces zones-là, parce qu'on s'est rendu compte de plusieurs éléments. D'abord que les conditions de logement sont en bas de précarisation, mais aussi et surtout qu'il faut faire attention avec ça, faut faire attention. Disons qu'il y a très peu de chiffres sur le bâti et les rénovations en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, mais même, je dirais, au niveau national, on a très peu d'informations. Par exemple, le graphique sur la droite par les résidences principales construites avant 1970. Ça, c'est un graphique qui a été monté. C'est nous qui avons fait ce graphique. Et finalement, on voit la moyenne départementale et la commune, et à côté, la moyenne des communes rencontrées. On constate, par exemple, que dans le Lot-et-Garonne, 48,8% des résidences principales ont été construites avant 1970. Il faut savoir que c'est un découpage qui commence dans les années 1900-1910. Donc finalement, est-ce qu'on peut faire une interprétation de la précarisation des conditions de logement sur ce seuil, sur ces 7 données ? Non, parce qu'on ne sait pas quels ont été les travaux qui ont été faits sur ces bâtiments. Et on a un peu d'informations, et ça finalement c'est aussi un résultat. Pourquoi on n'a pas d'informations sur ces éléments-là, alors que ça paraît quand même central à l'heure de la transition énergétique d'avoir une connaissance fine de ces territoires et plus encore des conditions de logement. Le graphique juste à côté, il est issu c'est des données tirées de l'Observatoire du logement en 2008. Donc c'est un rapport sur le mal-logement en Dordogne. Donc on constate que 135 des logements ont fait l'objet d'une saisine pour non-décence ou insalubrité. Donc les chiffres s'arrêtent à 2007, comme vous le savez, on a très très peu de données. L'INSEE, les recoupements de l'INSEE s'arrêtent à 2011. Donc depuis 2011, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce graphique, il donne finalement qu'une toute petite partie de l'iceberg, mais la partie immergée, elle est beaucoup plus importante, puisque le rapport précise que le parc immobilier du département est un parc vieillissant, avec 29 633 logements potentiellement indignes, classés en catégorie 7 et 8 par le cadastre. Il précise au niveau national qu'il s'agit quasiment de 1,6 million de logements qui ne disposent d'aucun moyen de chauffage, ou seulement de moyens sommaires. Donc, je rebondirai presque là-dessus. Pourquoi cette photographie ? Voilà, on comprend en fait pourquoi l'étude des contextes territoriaux est importante. Comprendre que dans les communes rurales, l'isolement des personnes âgées, c'est une réalité. Les conditions de logement ou la précarisation, c'est également une réalité. Et tous ces éléments de contexte, de cadrage, de description, ils viennent finalement expliquer, en partie en tout cas, une réception plus troublée, en zone rurale qu'en zone urbaine. Je rebondis rapidement sur le prolongement, comme ça après, non.
Je reviens. Merci Marion, en soulignant que l'ensemble du rapport, comme vous l'avez bien fait, est une performance disponible sur le site de la Fondation. La parole est à Christopher, au nom d'Enedis, publiquement.
Donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur la notion de test notamment que j'ai bien entendu, et l'attente que le compteur fasse ses preuves, commence à faire ses preuves. Ben, nous, on estime que le compteur commence déjà à faire ses preuves. Preuve en est, on est donc à 18 millions de compteurs déployés. La moitié des foyers français sont équipés. Et donc on commence déjà à voir les premiers retours. Je vais y revenir d'abord pour évoquer peut-être les questions quand même qui ont pu être évoquées et qui peuvent être posées un peu dans le débat public. Il y a eu deux grandes questions. Effectivement, la question des ondes, qui a été à un moment mise en avant. Et à laquelle, au final, un certain nombre d'institutions ont répondu, notamment l'Agence nationale des fréquences, l'Agence nationale de la santé. Il faut savoir que pour que la technologie utilisée, le CPL, est au final une technologie qu'on utilise depuis 40 ans, même plus, pour le pilotage des ballons d'eau chaude. Donc il y a en fait une technologie qui existait depuis longtemps. C'est un signal qu'on envoie au final une fois par jour. Et enfin, quand l'ANFR a voulu vraiment mesurer ce qu'était ce signal électromagnétique, ils ont dû développer des instruments qu'ils n'avaient jamais développés parce que le signal était trop faible. Et comme tout signal électromagnétique, en fait, ça diminue avec le carré de la distance. Et les résultats, on ne capte plus l'onde au-delà de 20-30 cm. Et encore faut-il réussir à la capter, ils ont dû développer des instruments exprès. La question des ondes, en fait, très rapidement, certes, elle existe encore, mais retombée, une de nos principales opposantes, il faut bien la citer, Adiobé, l'a reconnue en septembre 2017, la bataille des ondes est perdue. On a compris donc, que c'était un prétexte à l'opposition, et donc ouvrons un nouveau front qui a donc été, en fait, en quelque sorte, celui des données. Le problème, c'est que sur le champ des données, nous, depuis le début, on répond à toutes les demandes de la Commission nationale informatique et liberté. On a respecté un certain nombre de règles. qui font qu'au final, on est, nous, les stricts garants de la protection des données, mais ce qu'on était déjà avant, donc rien de nouveau. On ne remonte les informations aux fournisseurs qu'une fois par mois. Et si le consommateur souhaite donner ses données, et uniquement s'il le souhaite, il peut transmettre ses données à d'autres acteurs. Et là, effectivement, il peut bénéficier de courbes de charge, donner à des startups pour proposer des offres, etc. Mais là, dans tous les cas, un compteur Linky ne peut pas permettre de voir ce qui se passe dans un logement. Un compteur Linky, en fait, s'arrête à l'entrée du foyer. Et on remonte des informations de base qu'une seule fois par mois. Donc on ne peut pas voir à quelle heure on prend sa douche, etc., comme ça peut être rapporté. Donc la question des données, et on a la chance en plus en France quand même d'avoir une entreprise de service public pour assurer justement cette collecte des données. Ce n'est pas le cas partout, et en matière de collecte des données, on connaît quand même énormément d'acteurs qui voudraient et qui bénéficient de données beaucoup plus fines que celles dont on dispose, à travers par exemple nos téléphones portables, nos boîtes mail, etc. Donc après, au-delà de ces questions, il faut bien voir qu'on est à 18 millions de compteurs déployés, donc on a quelque chose qui est maintenant en place, et qui fonctionne. C'est surtout ça qui est intéressant. Il faut faire la preuve, on nous demandait de faire la preuve que ça fonctionne. Donc techniquement, on arrive à faire les relèves à distance. On relève à distance, il n'y a plus besoin de poser un RTT pour le passage du releveur. Les factures maintenant ne sont plus, du fait de cette relève à distance, des estimations, comme ça peut être le cas, ou avec des rattrapages assez significatifs. C'est quand même des choses où, par le passé, on pouvait avoir, parce qu'on avait été absent lors d'une relève, de relève, un rattrapage de consommation assez significatif. Maintenant, avec le compteur Linky, ce n'est plus possible. On est facturé ce qu'on a consommé. Autre chose qui maintenant est possible, c'est la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, c'est quelque chose de nouveau, je pense que ça pose toute la question qui est en train de temps, de quel développement des consommateurs, c'est la possibilité d'avoir des données fines de consommation. Pour les consommateurs qui le souhaitent, ils peuvent avoir leur courbe de charge, c'est-à-dire leur consommation, toutes les 10 minutes, et regarder, ok, sans l'âge consommateur, sans l'âge consommateur, et ça, il y a des personnes qui peuvent être friandes de ça, il y a des offres qui peuvent se développer là-dessus, c'est une possibilité qui est offerte aux consommateurs, ils peuvent l'activer, en tout cas ils peuvent regarder et faire des travaux d'efficacité énergétique en la matière, c'est quelque chose qui est désormais possible. Autre chose, enfin, c'est la protection des installations grâce au compteur. En cas de surtension, par exemple la foudre qui tombe sur une ligne, avant on avait le risque beaucoup plus fort que les installations sautent. Maintenant, les installations des particuliers, votre ordinateur, votre machine à laver, etc. sont protégées par le compteur Linky. Et quand la foudre tombe, là, c'est les installations de la personne qui a refusé le compteur qui disparaissent. Donc, si après on continue dans ce qui a permis, une des attentes, c'est que je vous ai dit que le compteur est juste un outil, un moyen pour permettre la transition énergétique. Et une des choses qu'on attend, c'est notamment des offres nouvelles. Et on constate de la part du fournisseur des offres sur la base du compteur communicant pour permettre une tarification moins chère de l'énergie selon qu'on consomme à des heures spécifiques. On a ça qui apparaît. Et troisième point, parmi les nouvelles choses qui apparaissent, pour faire bref, c'est la facilitation du déploiement des renouvelables. Où, grâce au compteur Linky, maintenant, les autoconsommateurs, les personnes qui s'équipent de panneaux photovoltaïques font une économie en moyenne de 600 euros lors du raccordement de panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est pour l'autoconsommation individuelle. Quand il s'agit de faire d'autoconsommation collective, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, d'autoconsommation collective, il faut bien se rendre compte qu'elle n'est possible que parce qu'on a des compteurs Linky qui permettent de compter précisément la production des panneaux photovoltaïques et après de précisément la consommation au pas de temps 10 minutes justement des consommateurs qui vont bénéficier de cette production et de répartir la production entre les utilisateurs. Seul le compteur au final permet de dire très précisément ok, ça a été produit à tel moment, ok, telle personne a bien consommé à ce moment-là. Donc voilà, on a en tout cas la preuve du fonctionnement de l'outil.
Merci beaucoup. Tu nous as prévu le grand soir pour les quelques-uns qui refusent l'installation du compteur Linky. Donc, Aude, la thèse est toute fraîche ou encore toute chaude en même temps. Donc, les résultats, donc les aspects saillants.
Merci. Donc, effectivement, oui, l'ensemble de ma recherche porte sur l'analyse des débats publics. Donc, effectivement, je suis allée rencontrer un certain nombre de militants anti-Linky Je suis allée dans les associations anti-ondes, anti-relais, je suis allée rencontrer des porte-paroles collectifs anti-compteurs communicants. Je suis allée voir aussi ces acteurs qui contestent les marchés de l'énergie, ou même le paiement de la consommation d'énergie, comme les clients fraudeurs. Je suis allée voir des associations de consommateurs qui se positionnent aussi sur le sujet du comptage communicant. Donc en fait, un des autres résultats de ma recherche, c'est que finalement, si on veut comprendre la portée de ces débats, il faut s'intéresser à la structuration des débats, donc à la façon dont ces débats se structurent, mais aussi à la façon dont ces controverses se diffusent dans les territoires. Donc j'ai pu étudier donc, les dynamiques de controverses entre les phases expérimentales et les phases de déploiement, hein, puisque je travaille sur cette question depuis 2012. Donc déjà, ce que j'ai observé, c'est que ces controverses varient vraiment entre les phases expérimentales et les phases de généralisation. Donc, effectivement, les compteurs Linky ont suscité des réactions dès le départ, dès les premiers déploiements en 2010, dans les zones pilotes qui étaient donc l'Indre-et-Loire et le Grand Lyon. Et ces réactions portaient donc sur le paiement de l'électricité, sur l'efficacité écologique ou encore les risques d'aggravation de la précarité énergétique et de coupure d'électricité. Alors en même temps, la question de la santé est restée assez marginale dans les territoires au début. Et parallèlement, elle a été plus intensément débattue dans les mobilisations de claviers sur les réseaux sociaux. Donc si certaines controverses sont parvenues à s'éteindre pendant les phases expérimentales, en 2010 et en 2014, en revanche, les débats qui portent autour de la nocivité du compteur pour la santé par l'émission des champs électromagnétiques, mais aussi la question de la vie privée et de la protection des données personnelles, eux, ces débats sont restés contenus dans les phases de généralisation. Et donc le lancement de la généralisation en 2015 et 2016 a vraiment introduit une nouvelle étape dans la diffusion des controverses. Alors contrairement à ce qui a été observé aux États-Unis dans les mouvements anti-smart meters en Amérique du Nord, donc je pense aux travaux de David Gies, les travaux américains en sociologie environnementale. Alors ici l'affaire Linky, c'est vraiment pas qu'un problème de personnes électrosensibles. Le sujet a été investi en particulier lors de la phase de généralisation par d'autres débats sociétaux à l'échelle nationale, tels que la protection de la vie privée, la protection de l'environnement, ou encore la protection des personnes, et en particulier les personnes les plus vulnérables. Donc, il y a eu un phénomène d'élargissement des débats, mais j'ai observé aussi que ces contestations demeurent vraiment indissociables dans mon ancrage territorial. Donc ça, c'est un résultat important de mes recherches, c'est-à-dire que le compteur Linky, loin d'être une interface énergétique qui resterait confinée derrière une armoire, se trouve en fait être aux prises très concrètes de nombreux enjeux majeurs et contemporains. Donc c'est-à-dire la santé, l'environnement, la vie privée, la relation de service, l'accès aux services essentiels, la recomposition de l'État-providence, et bien sûr la réorganisation du service public de l'énergie. C'est-à-dire que ces mouvements sociaux aujourd'hui cristallisent des débats qui sont beaucoup plus globaux. Donc ceux qui contestent, voire le refus de la technologie aujourd'hui, font souvent appel à plusieurs de ces registres de justification. Donc c'est vraiment l'articulation et le renforcement de ces différents registres qui font que ces mobilisations se maintiennent et perdurent dans le temps, voire s'étendent aussi en enrôlant de nouveaux porte-paroles. Donc que ce soit des collectifs citoyens, des organisations militantes et puis aussi des élus locaux dans les territoires. En fait, l'émergence des mobilisations anti-compteurs communicants sert aussi à réveiller des conflits latents dans certains territoires, avec des acteurs qui cherchent en fait à trouver ou à retrouver une place d'expert sur les débats qui sont liés au numérique, à la santé et à l'énergie. Alors du côté des consommateurs, donc dans les espaces domestiques, on a certains clients, notamment dans les zones rurales, qui regrettent les passages moins fréquents de releveurs, de compteurs, par exemple. En tout cas, des professionnels de terrain du secteur de l'énergie, donc des professionnels qui vont être en fait associés à des garants de lien social et des témoins d'un service public de proximité. Dans le rural encore, la diffusion telle qu'elle est perçue par les clients se déroule dans le sens du déclin des services publics et elle est associée en fait à un sentiment d'abandon de certaines catégories de population dont on parle tant aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc ce qu'il faut souligner aussi, c'est que mon enquête a montré que les contestations touchent tous les milieux sociaux, allant donc des personnes aux classes populaires jusqu'aux catégories sociales supérieures. Donc c'est des pauvres, des ménages aisés qui vont être sensibles aux questions de santé et d'écologie. Ce sont des urbains, ce sont des ruraux. Ils sont résidents dans des zones pavillonnaires ou des immeubles collectifs. C'est aussi des jeunes urbains sensibles aux questions de vie privée et au développement durable. je vais m'arrêter là. Je pourrais toujours répondre à des questions pour des approfondissements sur les profils sociaux.
Merci beaucoup. Donc l'approche, les enjeux actuels vus par Bastien Tanner.
Oui, alors on peut peut-être aller sur la slide sur les courbes graphiques. Voilà. En fait, pour ce qui concerne notre recherche, l'ordre des sujets a été un petit peu inversé par rapport à l'ordre des sujets de la table ronde, qui est partir sur la jeunesse pour aller voir comment les problèmes se posent. En fait, dans cette première étude donc, qui a été commandée par l'ANSES pour essayer de comprendre comment les thèmes surgissaient, etc., autour de la controverse Linky, donc on a procédé à une analyse textuelle qualitative d'un corpus d'articles de presse, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc je ne rentrerai pas en détail dans les différents axes problématiques que le traitement médiatique, qui n'est que la face un peu émergée de l'iceberg, quelque part, permet de noter, et que Aude a déjà bien présenté. Juste pour dire en quelques mots, donc, la santé, donc, sur cette période qui était la période qui accompagnait le déploiement, donc la période 2015-2016, on voit que la courbe de la question sanitaire, des problématiques sanitaires, domine la controverse. Mais cette controverse tend à se diversifier dans ces thématiques, donc avec des questions, des préoccupations économiques, environnementales, des préoccupations liées notamment aux données, à la vie privée, mais aussi à la sûreté des équipements, etc., qui sont largement débattues dans la presse locale et nationale, et qui confondent donc la vision des acteurs de la promotion du compteur et des détracteurs ou des acteurs de l'anti-programme, pour les appeler ainsi. Donc si vous voulez une analyse plus détaillée de cela, une communication est disponible sur le site de l'Institut Licube. Par ailleurs, on observe une montée en puissance dans cette ligne, cette courbe noire. On a observé une montée en puissance de la critique des conditions de déploiement des compteurs Linky dans la presse. Alors, par conditions de déploiement, qu'est-ce qu'on entend ? On entend deux choses. Il y a la question des interactions entre les poseurs de Linky et les riverains, qui fait souvent la une, notamment de la presse locale autour des questions d'un certain nombre d'altercations, de tensions, etc. Mais il y a plus largement, de façon croissante sur cette période, toute la question d'une critique un peu plus institutionnelle, voire politique, des conditions de déploiement, qui touche au fait que certains citoyens ont l'impression de ne pas avoir été assez consultés sur ces questions-là en amont de la validation du programming qui est du déploiement, ou que leur parole n'est pas assez prise en compte, etc. Donc c'est ces choses-là qui dépassent finalement la critique purement sur les risques du compteur et de plus en plus prégnantes. On peut passer à la slide suivante rapidement. Donc c'est de cette en fait de ce constat-là que nous avons opéré. C'est en cela que je disais qu'on a procédé un petit peu à l'envers, que nous avons procédé à un regard un petit peu rétrospectif sur la genèse du programming Linky, en essayant d'analyser les prises saisies par l'opposition, opposition qui est hétérogène et qui mène aussi ses propres enquêtes en regardant un petit peu dans la genèse les conditions d'institutionnalisation du programme, etc. Donc par prise, on n'entend pas les prises électriques, mais vraiment toutes les ressources à travers lesquelles les opposants sur lesquels ils peuvent prendre appui pour délégitimer le programme qui est les compteurs. Et ces prises peuvent être aussi de l'autre côté, du côté du camp des promoteurs, une façon de promouvoir la légitimité du compteur et du programme Linky en général. Si on avance rapidement, on peut tout faire apparaître. Disons, je ne développerai pas là, donc en fait ce schéma était une espèce d'aperçu général de toutes les données qu'on a pu sur lesquelles on a pu analyser pour essayer de reproduire une représentation chronologique de la prise en charge institutionnelle Linky, donc à la fois au niveau législatif, au niveau des expertises, au niveau des différents débats parlementaires, etc., sur le sujet. Et on voit qu'à chaque fois, les opposants, notamment, peuvent y trouver un certain nombre de prises pour remettre en question le programme. Sur les questions sanitaires, sur le fait que la bataille sanitaire soit perdue, je serais peut-être moins catégorique, parce qu'effectivement, même s'il y a eu des coups durs pour les opposants sur cette question-là. Au niveau local, en tout cas, ça continue à perdurer. Tout un nombre de, d'inquiétudes qui sont formulées, notamment dans les réunions publiques, etc., qui continuent d'être assez prégnantes, la question du rayonnement, du CPL, etc. Des choses que vous connaissez. Donc il y a tout un foyer critique qui est lié à cette, au fait que l'expertise sanitaire finalement était des experts, qui intervient après le déploiement des compteurs Linky en réponse à la controverse. Alors là on a effectivement le camp des promoteurs qui va dire bah, il n'y avait pas de question sanitaire, donc effectivement on vient répondre à la controverse, et le camp des opposants qui va dire bah, le fait que l'expertise sanitaire arrive tardivement, c'est une preuve que le programme a été mal pensé sur ces questions-là, etc. Enfin, voilà, vous voyez le type d'opposition et le type de point de vue. Et il en est de même pour la question écologique, le fait que le dossier, notamment par les discours successifs des personnalités politiques, soit écologisé progressivement, que ce soit disons, renforcé dans son cadrage écologique, peut-être aujourd'hui perçu comme une prise parmi les opposants pour critiquer la genèse du programme. Et de même pour la phase de validation des textes de référence comme l'étude de Capgemini ou le rapport Le Nord connaît tout ce qui est de 2011 peuvent être cités comme, comme des travaux disons assez technocentrés par rapport à la question Linky, là où une consultation plus générale aurait pu aborder les questions de réception sociale, etc. Donc voilà pour la limite. Est-ce que j'ai le temps de...
Non.
Très bien.
Normalement, un, le temps est épuisé, mais deux, nous avons commencé avec un quart d'heure de retard, moi-même j'ai été un tout petit peu long pour attendre la technique, donc vous avez un troisième et dernier tour de 3 minutes, donc qu'est-ce qui est à l'agenda, les comparaisons, puisqu'on pourra embrayer aussitôt sur la conférence de Christelle Asselot pour ramener le débat global après, donc ça sera pas mal, pour laisser, pour regrouper, pour faire un débat entre la table ronde et la conférence de Christelle Asselot, pour respecter la table ronde numéro 3, les conclusions, etc., et pour ne pas partir à 22h. Donc, dernier temps, Marion, qui voulait terminer tout à l'heure, vous allez nous faire ça.
C'est bon. Donc, pour cette troisième et dernière partie, j'aimerais revenir sur le prolongement de l'étude 247. Avant ça, j'aimerais seulement revenir sur une des interventions de Bastien Tavener, que je trouve très intéressante, et finalement, ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand je venais sur la fameuse controverse. Oui, je vais aller vite, mais avec mon débit de parole, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Sur cette fameuse controverse multicause et multipartite, je vous disais tout à l'heure que finalement, effectivement, on a l'impression qu'on a gagné un petit peu le combat des données, et qu'on est, à l'inverse, ce recul de l'argument des données, on a eu une résurgence de la notion de liberté individuelle. Finalement, c'est intéressant parce que c'est vrai, les communes, mais aussi les ministères, reprochent cette mise à l'écart finalement sur les questions du compteur Linky, une mise à l'écart qui tranche avec l'injonction de devenir un consommateur. Donc en ce sens, je trouvais que c'était assez intéressant. Je vais tout de suite replonger sur le prolongement de l'étude. Donc c'est une étude qui va se faire en 3 volets pour une seule étude de trajectoire. C'est ce que vous verrez sur la dernière slide, qui est finalement juste là pour appuyer mes propos. Donc un premier volet d'étude, pardon, sur la Dordogne. Alors il faut savoir que ce soit dans le cadre de l'étude de son 47 ou de son prolongement, la spécificité finalement, c'est le regard que nous portons et la priorité. On donne la parole aux élus locaux, donc des maires, des représentants de Comcom, des élus départementaux. Et la spécificité, finalement, sur ce deuxième volet d'étude, c'est que là, on a un focus sur les communautés de communes, les acteurs des communautés de communes. Pourquoi les communautés de communes? Parce qu'en fait, il s'agit d'acteurs multicassettes. Ils sont maires de leur commune, mais également, dans certains cas, conseillers départementaux, conseillers régionaux, élus politiques. Donc, finalement, ces acteurs-là, ils ont une connaissance très fine de leur territoire et surtout des différentes échelles d'acteurs, pardon, de ce champ, parce qu'en sociologie on aime beaucoup penser les champs comme des arènes finalement, des milieux agonistiques faits de tensions, de luttes d'intérêts entre différents acteurs, et c'est aussi tout le propre de l'étude de 147 et de son prolongement, c'est comprendre collectivement les sources de coopération de tensions, et plus encore mettre en lumière les enjeux de pouvoir, de décision de chacun et les échelles des acteurs. Donc ce focus sur les communautés de communes, c'est aussi un moyen d'accéder à ces différentes échelles, comment circule l'information entre ces différentes strates de décision, comment entre en opposition à la vision départementale de la transition énergétique avec sa mise en pratique sur les communes rurales, avec parfois des visions qui diffèrent entre la vision départementale, la vision régionale, son application. Donc tout ça, c'est très intéressant à saisir, et ça va être un petit peu le gros volet de cette étude. Dans un second temps, donc le Lot-et-Garonne, comme dans le projet 247, donc là la nouveauté finalement c'est l'arrivée de l'entre-deux-mers qui vient se rajouter dans la boucle. je réfléchirai à un autre 247, du coup. Donc, dans le cas de la Dordogne, on est vraiment sur une étude exploratoire, parce que oui, je n'ai pas précisé, on investigue les zones blanches, c'est-à-dire les zones pour lesquelles le développement n'a pas encore eu lieu, mais aura lieu plutôt courant 2020-2021. Donc, le but, finalement, c'est d'anticiper au mieux, armé de tout notre bagage de connaissances accumulées au cours du volet 247, d'essayer de tenter de mieux anticiper la réception du compteur communicant sur ces zones. Dans le cas de Télégramme, on est plutôt sur une étude d'impact, car nous allons en fait revenir sur les communes et auprès des mairies que nous avons déjà rencontrées donc, l'année dernière. Le but, c'est de revenir sur les sources de tension de coopération et éventuellement d'observer le nouveau rapport au compteur post-pose. Et ensuite, dans le cas de l'entre-deux-mers, c'est un volet d'études qui est beaucoup plus court, beaucoup plus exploratoire, si je puis dire, puisque là, le déploiement est vraiment effectif. On change un petit peu de territoire, on est sur un territoire beaucoup plus urbain. Comme le disait très bien Daniel, effectivement, il y a des spécificités territoriales qui sont très importantes, à la fois sur la façon dont c'est couvert médiatiquement, mais aussi sur le positionnement, sur tout ça. Donc, on va aussi pouvoir observer éventuellement des hétérogénéités, homogénéités entre tous ces espaces. Donc, on va aller vite. Donc, en fait, la dernière slide, c'est vraiment une slide pour appuyer tous les propos. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on a trois volets d'études, mais ce n'est pas des volets qui sont indépendants les uns des autres. Finalement, cette étude d'impact, cette étude d'anticipation et cette étude plus exploratoire dans le cadre de l'entre-deux-mers, ils se rejoignent pour mener une étude de la trajectoire du communicant beaucoup plus large. Donc, voilà, je m'arrête là-dessus. Voilà. Je vous laisse avec cette superbe photo de Bergerac.
Vous avez raison. Quelle promotion en même temps. Donc, 247 qui progresse dans l'ensemble de l'Aquitaine. Donc, bientôt le paradis total pour Enedis, avec l'achèvement en quelques années du déploiement.
Dans 3 ans, normalement, en 2021, effectivement, on aura, si on continue à ce rythme, raccordé l'intégralité du parc français. Maintenant, justement, je pense que je voudrais peut-être ouvrir là-dessus, conclure là-dessus, ça pose deux questions liées à la transformation du système énergétique français. La première question, c'est quelle réalité du consommateur au final dans 3 ans, une fois que tout le monde sera équipé, c'est comment faire en sorte, et est-ce souhaitable, comment faire en sorte que l'ensemble des consommateurs s'investissent dans le champ énergétique, consultent leurs données, fassent des efforts d'efficacité énergétique, tirent l'ensemble de ce que permet le compteur Linky. La question qui peut se poser, c'est au final, est-ce que vraiment les usagers qui sont jusqu'ici à l'étude juste en matière d'électricité, d'appuyer sur le bouton et d'attendre d'avoir de l'électricité et n'ont au final jamais rien demandé pour la plupart d'entre eux que de bénéficier du courant, est-ce que vraiment il y aura cette dynamique d'implication dans la transition énergétique? Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'au final le compteur Linky est une des premières briques de compteurs d'objets communicants dont on voit qu'ils commencent à équiper toute la maison au-delà du compteur? On parle beaucoup du compteur, mais maintenant les frigos vont commencer à être équipés de puces de communication, les radiateurs électriques, etc. Et on peut penser qu'au final, le consommateur pourrait revenir à quelque chose de plutôt passif, bénéficiant d'une offre du fournisseur qui pilotera lui-même les équipements et fournira un service au gestionnaire de réseau. C'est une des évolutions possibles. Et donc on est vraiment entre deux mondes, entre un consommateur et au final un consommateur plus passif qui est un peu évoqué par Daniel. La deuxième question qui se pose, c'est que mine de rien, on est avec le développement de Linky et des ENR dans une logique de développement de l'autoconsommation collective. On en a parlé beaucoup et en fait, une des questions qui se posent, elle a déjà été évoquée précédemment. On est dans des logiques de consommer local, de communauté locale. On a un thème qui arrive par la Commission européenne, la création de communautés énergétiques locales. Et c'est quelque chose qui est nécessaire, effectivement, dans le cadre de la transition énergétique, de développer l'autoconsommation. On constate qu'aujourd'hui, 80% de nos demandes de raccordement de producteurs, c'est de l'autoconsommation. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui fonctionne. Et effectivement, ça va se démultiplier, c'est déjà le cas. Mais quid de ces modes de consommation locale et du modèle énergétique français qui est basé sur la solidarité nationale, sur la solidarité entre les territoires? On a évoqué la péréquation. La péréquation, c'est une solidarité entre les territoires. Le fait est que le développement de l'autoconsommation collective qui est permise par le compteur Linky pose dans le même temps la question des gens qui sont en capacité de se mettre en situation d'autoconsommation, de ceux qui ne le sont pas, et des transferts financiers entre toutes ces personnes dans le cadre de la péréquation. Donc c'est vraiment deux questions, quel consommateur et quelle solidarité territoriale. Et je pense que c'est nécessaire quand même de réaffirmer le modèle français et toutes ces vertus, à mon sens. Je ne dis pas ça parce que je suis uniquement analyste, mais on a quand même un modèle français autour d'un opérateur de services publics qui permet un des prix les plus compétitifs. Je parle juste du réseau, sur les aspects réseau, on a des tarifs de distribution les moins chers d'Europe. On a un tarif qui en plus permet la solidarité territoriale entre les territoires. On paye autant l'électricité en Corrèze qu'à Paris, alors que ça devrait être bien plus cher en Corrèze qu'à Paris. Et enfin, on a une qualité d'acheminement qui est parmi les plus efficaces au monde. On a 99,99% de taux de disponibilité du réseau. Donc tout ça est tenu par le fait qu'on a construit un modèle autour d'un opérateur national efficace et dont les atouts doivent être quand même rappelés.
Merci beaucoup pour ces deux enjeux transversaux à court terme. La parole est à vous, en soulignant, parce qu'avant je n'aurais pas le temps de souligner que c'est quand même assez rare de trouver une table ronde de trois sociologues en particulier sur ces compteurs, donc Linky et ces éléments-là, ça me semble un peu original dans le cadre de cette chaire. C'est pour ça qu'on peut consacrer peut-être quelques minutes de plus, et après on va avoir Christelle à seconde justement, ça va faire encore plus. Donc Aude, vos mots de la fin.
Alors quelques points de synthèse, effectivement. Moi, ce que j'ai pu mettre en évidence dans mon travail de recherche, c'est que, en fait, si on ne fait que braquer le projecteur sur la nouveauté ou sur les controverses médiatiques, en fait, on manque l'ensemble des régulations qui sont opérées par les mondes sociaux du compteur Linky. C'est-à-dire que ce que met en évidence mon travail de recherche, c'est que finalement, les définitions du compteur Linky dépassent les espaces de conception, hein, ou encore les scènes publiques, c'est-à-dire que le sens et les appropriations concrètes se construisent vraiment au sein des différents mondes sociaux et surtout selon la capacité d'action des acteurs. Donc à chacune des étapes d'innovation, dans les mondes sociaux que j'ai pu étudier du compteur Linky, donc de nouvelles controverses apparaissent et qui s'articulent autour de débats en apparence très éloignés les uns des autres. Donc ce qu'on peut souligner aussi, c'est que la mise au jour d'un processus d'innovation hybride comme celui du compteur Linky va s'opérer par un renversement des normes de consommation qui sont perceptibles à travers les usages concrets et les contestations du compteur. C'est-à-dire que le fait d'avoir ajouté à l'outil des mesures d'objectifs de nature écologique a finalement offert à des acteurs nouveaux et périphériques qui voulaient faire peser leur voix dans les débats, dans les projets de transition énergétique. Donc ça a donné la possibilité à ces acteurs de se faire entendre. Et en même temps, ça a révélé aussi toute la difficulté à obtenir de la part de ce seul outil, qui est le compteur Linky, finalement, le gouvernement des conduites de consommation, de la maîtrise de l'énergie dans les espaces privés. Donc ce que montre l'enquête aussi, c'est que finalement cet objet a été requalifié au cours du processus d'innovation, donc un outil de la transition énergétique, un outil à ce stade de moralisation des comportements économiques et de resserrement des règles marchandes, de resserrement des règles marchandes dans le champ de la relation de service. Et en même temps, ce que j'observe, c'est que les acteurs de proximité n'ont pas parvenu à endiguer finalement les controverses locales qui continuent à perdurer. Donc ce qu'on découvre dans le contexte d'un déploiement planifié, national, obligatoire, donc ce qui est à l'inverse d'une diffusion classique d'un processus d'innovation marchande à travers une courbe en S, en fait on observe aussi le recul des acteurs de proximité et la fin de l'histoire d'une entreprise dont la vocation du service public s'était vraiment ancrée dans des régulations locales et territoriales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et les énergéticiens font face à un certain nombre de questions, de débats de société. Donc effectivement, ils ne sont pas responsables de la numérisation de la société telle que ces questions sont posées dans les débats sociétaux. En même temps, ces acteurs contribuent aussi à smartifier la société. Donc aujourd'hui, pourquoi ces mobilisations perdurent? C'est parce que des débats de société aujourd'hui en France ne sont pas du tout réglés. C'est la question de la santé, la question du numérique. Donc les questions qui se posent, en fait, c'est finalement qu'est-ce que la santé dans une société d'objets connectés, donc quelle est la place de la santé dans une société d'objets connectés, quelle est la place des libertés individuelles dans une société toujours plus numérisée. Ce sont ce type de questions-là qui se posent, dans lesquels les consommateurs, les clients, finalement, se dégagent finalement d'une relation marchande en posant ces questions d'un point de vue citoyen. Et ce qui est assez nouveau, ce que j'ai pu constater dans les enquêtes, c'est que finalement, ces controverses sont aussi portées par des nouveaux acteurs, des nouveaux consommateurs, qui seraient qualifiés par les énergéticiens comme des clients sans problème, c'est-à-dire ceux qui payent leurs factures, ceux qui ouvrent leurs portes aux releveurs de compteurs et aux techniciens, ceux qui ne frottent pas. Et en fait, dans mes corpus, on trouve une surreprésentation de clients sans problème qui aujourd'hui barricadent leurs portes, créent des tensions finalement dans la relation de service, ne veulent pas de ces nouveaux compteurs communicants. Et donc ça, c'est vraiment une forme assez inédite qui crée des litiges dans ces relations de service. C'est finalement des dilemmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les pouvoirs publics et les énergéticiens.
Alors, merci beaucoup. Avec cette diversité, cette typologie, cette proximité, je propose à Bastien, justement, d'élargir, parce que j'ai vu dans son titre, d'élargir avec les terrains internationaux et les comparaisons internationales.
Oui, alors, je ne sais pas si j'aurais le temps de tout aborder, parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur le point de vue des comparaisons internationales. J'ai une dernière slide qui peut me permettre de commencer l'élargissement, où je rebondis un peu sur l'intitulé de cette table ronde, pour essayer de penser à partir de notre enquête de terrain actuel, un peu cette population des non-usagers LinkedIn, parce qu'au-delà des opposants se pose aussi la question des personnes qui ne font pas usage aujourd'hui d'avoir des opportunités en termes de maîtrise de la demande énergétique, etc. Tout ça pour rappeler que technophilie et technocritique qui ont été opposées dans le titre de la table ronde ne s'opposent pas toujours systématiquement dans les faits, loin des stéréotypes des personnes purement technophobes et hostiles au progrès technique. Il y a de nombreux technophiles, des personnes qu'on peut qualifier ainsi, qui investissent les espaces de mise en débat des compteurs communicants, que ce soit au sein de réunions publiques ou sur Internet aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas, au sein de forums, de débats, etc. La technocritique, qui a l'intérêt, le terme de technocritique, de ne pas être la technophobie, donc qui est moins réductrice, passe aussi par l'implication de citoyens dans des démarches d'enquête qui peuvent déboucher sur des pistes parfois même de compromis socio-techniques. On voit au sein des forums de nombreux débats sur les questions de blindage des câbles, de débats autour des filtres CPL, etc. Des débats qui peuvent à la fois être parfois très techniques, des anciens ingénieurs, physiciens, épidémiologistes peuvent rentrer un peu dans le débat sans être forcément purement dans un camp ou dans l'autre, mais pour essayer d'apporter un peu leur pierre à l'édifice. Ça me semblait important de le rappeler. Et il y a aussi, pour dépasser un petit peu la technocritique, de nombreuses critiques, ce qu'on voit dans notre enquête actuellement, de nombreuses critiques et revendications qui dépassent le cadre de la technologie, au-delà de la mentionnée. On pourrait parler sur les questions sanitaires, notamment la critique des valeurs de seuil réglementaire d'exposition au champ électromagnétique, mais il y a aussi toutes les revendications sur le droit au refus des nouveaux compteurs, sur la démocratisation des procédures de validation des projets infrastructurels, etc. Tout un tas de critiques qui dépassent largement le cas Linky, mais qui peuvent être réactivés au sein des débats autour de Linky et qui sont, je pense, importantes à prendre en compte pour comprendre à la fois la vigueur, mais aussi la perpétuation de la controverse qui pourrait être complètement menacée par l'éclatement des thématiques entre la santé et la vie privée, etc., mais qui là trouve matière à perdurer autour de ces questions-là. Est-ce que je dis un mot sur la comparaison internationale?
Deux mots, peut-être.
Deux mots. Allez, très rapidement. Qu'est-ce que je peux vous dire de façon synthétique? Oui, c'est. Disons que l'intérêt de notre projet avec un regard donc sur le cas italien et sur le cas américain, c'est qu'en Italie, à l'heure actuelle, il n'y a pas de controverse et ça fait plusieurs années que des compteurs dits intelligents ou évolués sont déployés et n'ont pas fait l'objet de controverses. Donc ça nous pose tout un tas de questions aussi sur comment ces compteurs ont été accompagnés, toute une naturalisation du compteur. On parle forcément de compteurs intelligents, mais ça a été une modernisation classique du réseau. Et en Amérique, notamment en Californie, là où il y a eu des controverses assez vives, l'obtention du droit de refus un petit peu changer la donne, même s'il n'y a pas aujourd'hui de corrélation qui a été clairement ou statistiquement établie entre l'obtention d'un droit de refus et l'affaiblissement de la controverse, parce qu'on observe qu'il y a toujours une frange d'opposants qui pour qui ces questions de droit au refus n'est pas suffisante, parce qu'ils questions de pollution électromagnétique qui sont mises en avant, etc. On peut voir que ça a en tout cas pacifié les débats là-bas.
Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, le droit californien, cher à Laetitia Linné, n'a pas été utilisé ici. Donc, pour les étudiants de Master Histoire d'Innovation, je regarde ceux qui fuient. Merci beaucoup d'avoir terminé sur technophilie, technocritique qui ne s'oppose pas et au-delà. Vraiment, merci beaucoup. Et on est ravis, vraiment. Oui. Les questions, je pensais peut-être qu'il valait mieux dans la continuité donner la place à notre conférencière sociologue, mais allons-y, si vous souhaitez quand même, allons-y. On assiste au premier rang, donc on se laisse faire.
Oui, merci. Juste une remarque, parce que bon, ça fait à peu près 4 ans que je mange, je dors, je vis avec les quilles tous les jours. J'ai eu l'occasion de faire quelques dizaines de réunions en conseil municipal, en conseil communautaire ou de réunion publique. Donc effectivement, j'ai pas eu 130 personnes échantillonnées, mais des milliers qui sont venus me dire avec amour ce qu'ils pensaient du point de vue midi. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a à peu près une vingtaine de thèmes qui reviennent tout le temps. On les a listés et on arrive des arguments en face. Et on arrive toujours à raisonner les gens, par des cas extrêmement particuliers. On arrive toujours à raisonner les gens. Ce qui reste à la fin, quand on a tiré toute la pelote, uniquement, c'est « j'ai tout bien compris, mais moi, j'en veux pas, et je ne veux pas de cette mode, de cette façon de gouverner le pays, je veux de la démocratie participative. » C'est le truc qui nous reste toujours à la fin. Tous les arguments techniques, etc., on arrive à s'en sortir, tous, que ce soit les ondes, la techno, etc. C'est ça qui reste à chaque fois.
Cinquièmement, alors au fond, puisque vous avez pris une autre question, non ? Non ? Alors après, merci beaucoup en tout cas, bravo à tous les participants, merci beaucoup pour cette table ronde très originale. Merci beaucoup. C'est très complémentaire.